C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Avant les bilans, peut-être un mot sur le décès de la reine Élisabeth. Je vais commencer avec Nathalie.
Oui, pour moi, c'est la plus grande star de l'histoire du 20e siècle. En fait, il n'y a aucune personnalité sur la planète qui ne peut se comparer à ce qu'elle a vécu. Elle mérite notre admiration, notre respect, notre reconnaissance. Et je soupçonne, Paul, qu'il va y avoir un regain de popularité avec son départ. Elle va devenir encore une plus grande star, selon moi. Moi, je suis personnellement très admirative. Un, parce que c'est une femme. Un, qui a réussi pendant 70 ans à maintenir le cap. Et j'entendais hier la première ministre de la Grande-Bretagne, la nouvelle première ministre, la comparer à un rock. Elle a tout à fait raison parce que c'est le rock sur lequel le peuple britannique souvent a pu s'appuyer dans les moments les plus difficiles. On a salué son intégrité, sa droiture. Et moi, ce qui me fascine sur le plan politique, écoutez, elle a connu la Deuxième Guerre, la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Elle a été témoin du mouvement d'émancipation de plusieurs pays d'Afrique avec la fin du colonialisme, la fin de la guerre en Irlande du Nord. Elle a été témoin du premier homme qui est allé sur la Lune, l'arrivée d'Internet, la pandémie. Enfin, à elle seule, elle est l'incarnation d'une grande partie de l'histoire de l'humanité. Alors vraiment, c'est triste, mais en même temps, je pense qu'il est fantastique, c'est qu'on prenne le temps de saluer comme on le fait sa contribution. Il y a beaucoup de choses à dire, Paul, sur le sujet, mais je vais m'arrêter là-dessus pour laisser la parole à Luc.
Moi, je trouve que dans ce que j'ai lu sur l'héritage que la reine va laisser à Charles, au prince Charles, j'ai compris que la nation britannique est aussi le berceau de James Bond. Parce que
tu sais qu'elle a fait quelque chose avec lui, hein, avec Daniel.
Oui,
Craig,
ben oui,
hein,
ben oui,
les Jeux olympiques de Londres, une espèce de caméo.
Oui. Ouais. Oui. Mais c'est parce que quand tu regardes l'héritage, c'est bon, il y a 500 millions en valeur. Après ça, t'as des fonds qui servent à alimenter à payer les sorties publiques de la famille ou qui sont distribuées dans la famille. Tu sais, quand t'es prince ou si ou ça, t'as un montant parce que tu fais partie, il faut t'as besoin de la sécurité. Ça, tu peux pas toucher à ça, ça fait pas partie de l'héritage, c'est en fiducie. Après ça, tu as des terres, comme il y a plusieurs lots de terres, et ces lots de terres-là sont distribués aussi dans la famille. Il y en a un qui appartient au prince, l'autre qui appartient au prince consort, l'autre qui appartient à la reine. Celui de la reine qu'elle lègue à Charles, il rapporte 32 millions de livres par année. Lui aussi, tu peux pas le scinder, tout ça. Il fait pas partie... Mais 32 millions de rentes par année, tu as des bonnes terres quand même, là, tu sais, si on parle pas de 2-3 terrains. Là. Puis... ce qui m'a frappé, c'est quand tu arrives au joyau de la... Ah, les châteaux ne lui appartiennent pas. La plupart des châteaux appartiennent à l'État, sauf Balmoral, puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui appartiennent.
Ça,
ça a des valeurs extraordinaires, mais tu peux pas les vendre de toute manière. Tu peux pas commencer à faire des condos. Au Québec, on ferait ça, on ferait des condos là, sur le terrain, mais là-bas, tu peux pas. T'sais.
Un flip.
Oui, on flipperait, puis la partie du terrain en avant, puis on met des 6 étages. Bon. Mais ce qui m'a frappé, c'est les joyaux de la couronne. De tout ça, là, ça arrive pas à la cheville des joyaux de la couronne, des joyaux de la couronne. 4 à 5 milliards de dollars, la valeur. 4 à 5 milliards de dollars. Pour ça que les films de James Bond existent. Parce qu'il y a matière à.
Probablement.
Tu sais que quand le prince Charles a, pas le prince Charles, l'autre prince là, qui est mort avant.
Philippe.
Oui, le prince Philippe. Est mort. Il y avait juste une petite fortune, lui, 30 millions. Mais de livres quand même, 45 millions de dollars, mais 3000 œuvres d'art. 3000. Moi, je me suis dit, ça prend quand même des meubles les accrocher.
Il y en a pas mal. En termes de château. OK, ben faisons le bilan d'abord de la campagne électorale. Nathalie.
Oui, bilan de la campagne électorale. Alors, quelle semaine, encore une fois. On est à quoi? Mi-campagne presque, puis ça brasse énormément. D'ailleurs, on a déjà oublié les baisses d'impôts. Sur le plan de la violence, j'ai remarqué que, je me souviens plus dans quelle média, on faisait état de 15 arrestations en 12 jours de campagne pour menaces et méfaits à l'endroit de tous les candidats et candidates, en particulier à l'endroit des chefs de parti. Et c'est du jamais vu dans une campagne, faut-il le souligner. Alors, voici ce que j'ai retenu cette semaine, plusieurs choses. Tout d'abord, Éric Duhaime qui se crêpe le chignon avec le maire de Québec à propos du tramway. Oui. Il y a aussi Gabriel Nadeau-Dubois qui s'est retrouvé sur le grill, obligé de défendre son impôt sur la fortune et la succession. Ça a fait énormément jaser. Mais j'ai aussi remarqué sa proposition de repas végétalien dans les CHSLD et les hôpitaux. Je crois qu'il y a d'autres priorités, honnêtement, avant de proposer des repas végétaliens. On pourrait peut-être commencer à servir des repas dans le sens du monde, en termes de quantité et de diversité. Il y a François Legault également qui a marqué dans son propre but avec sa fameuse déclaration sur les immigrants. Et là, c'est absolument fascinant. Parce que après tout ce que j'ai entendu de la part des auditeurs, tu as entendu beaucoup de choses, Paul, de ton côté, Luc également. Mm-hmm. L'effet sur sa campagne sera nul. En fait, il ne perdra pas de vote, mais peut-être qu'il va faire le plein de votes. C'est-à-dire que il s'est retrouvé sur la défensive, mais je ne crois pas que ça va se traduire dans le 3 octobre au soir dans l'urne. Ça, c'est mon point de vue. Et un dernier commentaire avant de te céder la parole, peut-être, Luc, un sondage Segma, le Soleil FM 93, qui a retenu mon attention également. Davantage, et là, ne t'étouffe pas, mon cher Luc, mais davantage d'appui au troisième lien qu'au tramway de Québec dans ce sondage qui a été publié. Et là, l'autre donnée fort intéressante, c'est que QS était reconnu comme le parti le plus populaire auprès des jeunes, en particulier les jeunes de 18 à 34 ans. Mais dans la grande région de Québec, QS a de la compétition, et ça, c'est absolument incroyable. C'est le PCQ d'Éric Duhaime qui fait aussi fort, qui séduit autant l'électorat, les 18-34 ans, que Québec solidaire, avec plus de 30 % d'intention de vote. Moi, je trouve ça incroyable. La jeunesse se situe aux deux extrémités de l'échiquier politique, bien à droite ou bien à gauche.
Luc?
Moi aussi, j'ai remarqué, ça va porter sur des individus. D'abord, Éric Duhaime peut pas évidemment échapper à mon attention cette semaine quand il déclare que la réduction des gaz à effet de serre est inutile. Moi, je trouve que c'est amusant, ça. Je trouve que ce gars-là a aucun filtre, aucune gêne. Tu sais, la terre est plate. Ça donne rien de se protéger contre le virus, mais voyons donc. Les mesures sont trop sévères. Les gaz à effet de serre. Tu sais, les gaz à effet de serre, c'est juste comme des milliers d'universités à travers le monde qui étudient ça, là. Des milliers d'universités. Puis des milliers, des dizaines de milliers de scientifiques qui étudient ça, tu sais, avec des mesures. Lui, il arrive. Ah non, c'est inutile, ça marche pas. D'où ça vient, ça, cette capacité de dire le contraire de milliers de scientifiques comme ça en claquant des doigts? Ça vient de quelle fibre de son corps? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ça m'impressionne. Sur la CAQ. Bon, là, sur la CAQ, là, j'ai tout le temps des critiques à faire, puis beaucoup de critiques à faire, parce qu'ils font des affaires énervantes. Puis je vais en parler. Mais avant, il faut que je dise que, tu sais, parce que là, il y a des gens qui m'ont dit, coudonc, toi, t'es-tu payé juste pour parler contre la CAQ? Je sais, on a tout le temps des auditeurs qui nous disent ça.
Et c'est vrai. On dépasse, mon.
Non, mais c'est vrai que ça donne cette impression-là. Parce que la CAQ fait quand même des bonnes choses. Ils seraient pas là avec les chiffres qui ont, s'il n'y avait pas réinvesti dans l'éducation, réinvesti dans la santé, réinvesti dans la protection de la jeunesse, même si c'est pas à la hauteur. À dernière minute, ils ont décidé de réinvestir dans la police, ils ont décidé de réinvestir dans le logement. C'est pour ça qu'ils ont les chiffres qui sont là. Donc, ils ont fait des bonnes affaires. Face à l'urgence, ils finissent par ouvrir le portefeuille. Et dans le sens de l'histoire, là, on verra que la CAQ a eu un rôle à jouer, un rôle important. Mais des fois, là, il arrive avec des déclarations comme. Le principe du non-utilisateur payeur, c'est comme tabarouette, ça vient, tu sais, le go qui déclare pour les Montréalais là, le troisième lien, arrêtez d'en parler, ça vous concerne pas.
Ça t'a choqué. Hein?
Ben écoute, 50%, mais c'est qui va le payer ton troisième lien, tu penses? 50% de l'économie du Québec est ici, mon grand. C'est ici que ça sort l'argent, là. La machine, là. Écoute-la, regarde dans le coin, écoute-la. Tacadadac, 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 tacadadac. C'est là la machine à l'argent, c'est Montréal. Fait que, bon, ensuite, j'ai tout le temps pour un autre.
En conclusion.
Mais moi, j'aimerais. Non, mais, okay. Déjà en conclusion.
Déjà,
parce que, ouais, parce que ça va vite, là.
OK, ben, juste que si tu plates que les deux meilleurs candidats sur la question de l'aménagement du territoire au Québec s'affrontent un contre l'autre. On va en perdre un. Jeanne Robin et Étienne Grandmont. Dans Taschereau à Québec, c'est deux perles, puis ils s'affrontent un à l'autre. Je trouve ça bien plate.
Au retour, ben, ce sera le bilan de la semaine tout court.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, rapport de la commission, c'est Luc qui commence.
Bon, alors les élections en Suède, c'est-tu aujourd'hui, demain, en tout cas dans les prochains jours. Et c'est fascinant, on devrait écouter ça au Québec, parce que la Suède, ça a toujours été un modèle pour nous. Et là, il y a trois partis qui s'affrontent. La première ministre sortante est là juste depuis quelques mois, là, Magdalena Andersson. Et elle est obligée de faire un virage à droite pas possible à son parti social-démocrate. Et elle affronte deux partis de droite. Un parti de droite, puis un parti d'extrême droite. Puis le parti de droite, puis le parti d'extrême droite risquent de s'associer pour gagner. Puis elle, pour faire face à la droite, est obligée de virer à droite du style réduction de 50% des immigrants, interdiction d'installation de plus de 50% d'immigrants dans un quartier. Donc, tu vas dire aux immigrants où habiter. Non, là, ils sont rendus 50%, tu s'en vas dans le quartier d'à côté pour plus avoir des densités d'immigrants, d'immigration forte. Parce que la Suède est fait face à une résurgence de la violence et l'utilisation des armes à feu dans dans des quartiers de Stockholm essentiellement et un peu dans la banlieue aussi, deux fois pire que Montréal. Donc en termes de meurtres par habitant, et c'est en croissance là, c'est en train d'exploser et c'est lié à une incapacité d'intégrer adéquatement une immigration qui vient d'Irak, de Syrie et de Somalie. Et donc que le symbole de la gauche dans le monde entier est en train de virer à droite et n'arrive pas à mettre en bouche, se mettre en bouche des et vendre à la population des solutions d'intégration efficace et intelligente de l'immigration, ça me fascine. L'autre affaire, je voulais parler de Benoît Charrette. Benoît Charrette, ministre de l'Environnement, t'sais, on comprendrait pas que Fitzgibbon ne soit apprécié et aimé d'aucun partenaire d'affaires. Qu'il y a pas une chambre de commerce qui dirait Fitzgibbon est un bon ministre de l'économie. Et Benoît Charrette, on le met dans un rôle où il est forcé de déplaire à tous les gens qui s'intéressent à l'environnement. Et ça, c'est grave. Je trouve que Charrette est sorti cette semaine pour défendre l'idée selon laquelle il fallait pas mettre de taxes sur les gros véhicules polluants. Il l'a fait en défense de la position de son premier ministre qui dit non, nous, on fera pas ça. Nous, on va y aller avec du positif. Je trouve ça grave que, tu sais, c'est le ministre de l'Environnement. On ne demanderait pas à un religieux qui rejoindrait un parti politique de se mettre à la défense des bars de danseuses. On ne demanderait pas ça. On y ferait pas cette obligation-là. Pourquoi on fait ça, Benoît Charrette?
Mais Luc, écoute, t'étais le premier à le décrier. Mon Dieu, c'était pas ton préféré.
Ah non, mais c'est non, mais je le décris sur la place publique. Bien sûr que je le décris.
Là, tu prends sa défense ce matin.
Mais c'est-tu quoi? Mais c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que je le décris à cause de ses positions. Puis à un moment donné, les positions sont tellement bizarres, tellement faibles, que je me dis, le gars est obligé de prendre ces positions-là. Ça se peut pas que lui, de sa propre volonté, aille défendre des positions comme celle-là. Et c'est grave.
Le poste de ministre de l'Environnement, Luc, c'est le poste le plus difficile dans un gouvernement.
Ben, il le confirme.
Oui. Non, c'est pas le premier, là. T'es toujours pris entre l'arbre et l'écorce.
Franchement.
Tout le temps.
Troisième point?
Oui.
J'ai tout le temps, ouais.
Oui.
On parle beaucoup du réchauffement de la planète. Moi, j'en parle beaucoup. Puis on se dit tout le temps, ça progresse pas. Oui, ça progresse. Parce que, et ça, aujourd'hui, on a la preuve que ça progresse. Que quand ça fait des années que les spécialistes disent, attention, 1,5 degré, là, c'est grave, parce qu'à partir d'un 1,5 degré, il y a des effets déclencheurs qui s'alimentent, puis là, tu peux plus rien arrêter. La planète décide pour toi. Et là, c'était dans le Journal de Montréal hier. Et là, je me suis dit, oh, OK. Là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux dans le sens où si c'est dans un journal populaire qui... C'est pas un journal de scientifiques, c'est pas un journal de techniciens, c'est pas un journal d'environnementalistes. Si c'est rendu un journal de Montréal, c'est que là, le message est passé partout dans le sens où ça touche toute la population. Et je me suis dit, c'est une étape.
Nathalie.
Oui, où s'arrêtera la Banque du Canada? J'ai retenu une autre augmentation du taux directeur de la Banque du Canada à 0,75 pour s'établir à 3,25. Je comprends que la banque là, est forcée, comme toutes les grandes banques dans le monde, d'adopter des mesures pour réduire la pression inflationniste. Par contre, je me demande jusqu'où va aller la Banque du Canada, parce que là, il y a des ménages qui commencent à trouver ça très difficile. Et ce qui m'inquiète, c'est la stratégie de certains membres de la Réserve fédérale américaine qui, eux, pensent qu'il faut augmenter les taux d'intérêt de façon substantielle pour réduire l'inflation à son plus bas. Par exemple, il y en a qui pensent à la Réserve fédérale qu'il faut diminuer l'inflation à 2 % Mais si on diminue l'inflation à 2 % imaginez l'augmentation des taux d'intérêt qu'il va falloir faire pour arriver à un résultat comme celui-là. Alors, j'espère que la Banque du Canada a une stratégie beaucoup moins drastique que celle que prônent certains membres de la Réserve fédérale américaine. De la médecine de corridor dans les Laurentides, un article publié dans Le Devoir il y a 3 jours qui a retenu mon attention. C'est indécent qu'en 2022, et là je le dis avec énormément de conviction, c'est indécent en 2022 qu'un hôpital comme Saint-Jérôme, puis il y en a d'autres aussi, je pense entre autres à l'hôpital de Grimby, que les patients, le personnel doivent composer avec des histoires d'horreur, des gens qui sont négligés, qui, faute d'avoir reçu des soins au bon moment, au moment approprié, se retrouvent hypothéqués pour la vie. Et là, je n'exagère pas. Il y a des témoignages qui se sont fait entendre au cours des derniers jours et puis j'en ai reçu à l'émission. C'est absolument incroyable. Et j'ai envie de vous dire, si mourir à l'urgence ne suffit plus pour que les choses changent, qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que ça va prendre? Et j'ai l'impression que le gouvernement, les partis politiques ne mesurent pas tout tout le drame qui se joue derrière, effectivement, les portes de, derrière les portes de certaines urgences d'hôpitaux au Québec. Et je vais terminer sur une note qui va vous faire sourire, je crois bien. Si vous êtes nostalgique de la rivalité canadien-nordique, ben, n'ayez crainte. Le troisième lien va raviver la flamme entre la métropole et la capitale nationale. Je sais pas encore qui va gagner la partie, mais ce que je sais cependant, c'est que le match risque d'être très, très long. Alors, voilà. C'est, ben, je trouvais ça, moi, tu sais, faut en rire quand même. Je sais que ça vous a fâché, les Montréalais.
Non, mais t'as...
L'histoire de la déclaration de M. Legault. Mais si on en rit, là, deux secondes et quart, tu sais, il y a parce quand même, c'est quand même.
Ça va être le fun. Ça va être le fun.
Oui.
C'est comme Canadien-Nordique, mais, ouais, à 10 milliards, mais ça va être le fun.
Mais Canadien-Nordique, il y a eu des moments intenses, par exemple. Faut jamais oublier ça.
Ben, je pense qu'il y en
un
aura dans le cadre de...
Et dans les, je te parlerai des médias. J'ai été aux premières loges.
Ça se pognait-tu des médias aussi? Pour vrai?
Ah oh, oui, oui.
Puis, ben, Nathalie et moi, on n'est pas toujours dans le même studio, je te le dis aux auditeurs. Hein?
Non.
Oui, puis, oui,
c'est pas une mauvaise chose.
Je vais prendre ma revanche parce que je serai avec toi physiquement au studio, Luc Ferrandez.
Oui, parce que Nathalie, quand même,
non,
elle a du temps.
Oui. Alors, bon week-end à tous les deux.
C'est 23.